Mais l'Église n'est pas qu'une famille. La Bible parle beaucoup de l'Église. D'ailleurs, elle consacre plusieurs lettres du Nouveau Testament spécifiquement à des églises locales. Donc, il y a l'Église universelle et il y a l'Église locale. Dans chaque région, dans des villes, l'apôtre Paul visitait plusieurs églises. D'ailleurs, il a fondé lui-même quelques-unes de ces églises-là. On le voit dans le livre des Actes, alors qu'on parcourt les nombreux voyages missionnaires qu'il a fait. Et l'Église est comparée à plusieurs choses dans les Écritures. Et ce matin, nous sommes en train de finir cette mini-série qu'on a commencée il y a 3 semaines sur le service. Et vous savez, on a regardé ensemble il y a quelques semaines le rôle des anciens dans l'Église. Prochainement, vous aurez à vous prononcer à la réunion d'affaires sur de nouveaux anciens qu'on aimerait vous proposer comme conseil, des candidats. Et on a regardé ensemble avec Yannick le rôle des diacres et le service dans l'Église. Et ce matin, ce qu'on veut faire, on veut regarder ensemble notre rôle à chacun d'entre nous, que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur quand on est un enfant de Dieu et qu'on fait partie de cette belle grande famille qui est la famille de Dieu. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre un texte qui décrit vraiment bien l'Église et compare l'Église à autre chose que la famille. Et on va regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous voulez bien. Alors, on espère que vous avez votre Bible avec vous. Nathalie est là, debout déjà, et elle a des Bibles avec elle. Si jamais vous n'avez pas de Bible et vous êtes ici pour la première fois, levez la main, gênez-vous pas, on a des Bibles, oui. Quelqu'un de l'autre côté, on a des Bibles ici. Dans une église, t'espères qu'il y a des Bibles en abondance, hein? C'est ça notre livre de chevet, c'est la parole de Dieu. Tout s'appuie, tout ce qu'on enseigne le dimanche s'appuie sur la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans la première lettre de Paul, 1 Corinthiens, et on va tourner au chapitre 12, alors que Paul écrit une lettre à l'église de Corinthe. Une église qui existait, il y avait des membres à l'intérieur de l'église, il y avait des forces dans cette église-là et où il y avait des faiblesses. Comme une famille, on a besoin de grandir, des choses à apprendre dans une famille. Et évidemment, c'est la même chose avec l'Église. Et ici, l'apôtre Paul va prendre vraiment tout un bloc de 3 chapitres, chapitres 12 à 14, pour montrer ce que c'est que l'Église. Et pour bien le faire, l'apôtre Paul choisit de prendre une image, une très belle image, qui est le corps humain. Et on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 12 et on va aller au verset 12, si vous voulez bien. Et on va débuter avec ce premier verset-là, on va arrêter après ça, on va regarder ce que Paul est en train de dire ici, d'accord? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Alors, ce que l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, est en train de nous dire, c'est que l'Église est le corps de Christ. Et si Paul se sert de cette expression, c'est pas juste une figure de style. L'Église est littéralement le moyen par lequel Jésus travaille aujourd'hui. Nous sommes vraiment le moyen par lequel Jésus va travailler ici dans ce monde. Il est venu ici il y a 2000 ans, physiquement, mais il est maintenant à la droite du Père, et aujourd'hui, à travers l'Église et son Esprit, il est en train de faire une œuvre dans ce monde. L'Église est donc maintenant le corps. Je pense que c'est John MacArthur qui dit « L'Église est le corps numéro 2 de Jésus-Christ ». Nous sommes le corps de Christ. L'Église est une extension, un prolongement de Jésus. Alors, nous avons tous un corps physique, et c'est par là que Paul débute son enseignement sur l'Église. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. Paul nous dit que ce n'est pas seulement l'Église qui est le corps de Christ. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas juste l'Église qui est le corps de Christ. Christ et l'Église forment ce corps, d'accord? Ensemble, nous constituons le corps de Jésus-Christ. Et lorsque tu te tiens devant un miroir et que tu regardes ton corps, ce que tu remarques, c'est qu'il y a vraiment 2 parties. Il y a la tête et il y a le corps. Et c'est comme ça aussi avec l'Église. Tu vas avoir le torse, tu vas avoir dans la grande partie du corps, tu vas avoir les jambes, les bras, les mains, les pieds. Et ça, c'est une partie du corps. Et évidemment, il y a la tête en haut de tout ça qui gère pas mal ces choses-là. Si ça fonctionne bien, ta tête va gérer tout ça. Et t'espères que ça fonctionne bien. Alors, nous faisons partie de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble. Et c'est toute une déclaration, ça. Littéralement, lorsque tu te promènes à ton travail, lorsque tu t'en vas travailler demain matin, tu es une partie du corps de Jésus-Christ. Donc, tu es ce que les gens voient de Jésus-Christ à ton travail. Lorsque les gens te voient, ils voient une manifestation, tu es un morceau, tu fais partie du corps de Jésus-Christ. Tu es ce que les gens voient aujourd'hui de leurs yeux de Jésus-Christ. Vois-tu? Et ça, c'est toute une affirmation, et ça a certainement un impact sur toute notre façon de vivre. Jésus fonctionne dans ce monde à travers et par l'Église. L'Église est donc un corps avec plusieurs membres, et pourtant, il n'y a qu'un seul corps. Tous les membres sont connectés ensemble et partagent la même vie. Ils sont connectés à la tête de sorte qu'ils représentent le moyen par lequel Jésus exprime sa vie dans le monde. Et là, on parle d'une vie, on parle pas d'une organisation. Souvent, les gens vont parler de l'Église comme si on parle d'une institution, une organisation. Non, l'Église est un organisme vivant. Ça a de la vie, et c'est la vie de Christ qui est là à travers l'Église. Et ça, c'est tellement important de s'en souvenir. Ce n'est pas une organisation, c'est pas une chose, c'est un corps, il y a une vie, un organisme vivant. Alors, première question qu'on doit se poser, c'est comment on peut faire partie de cette Église? Et c'est à ça que Paul va répondre déjà au départ, au verset 13. Alors, si on continue notre lecture, ce qu'on découvre, c'est qu'on ne vient pas au monde dans le corps de Christ à notre naissance. On le devient. Dans le verset 13, voici ce que Paul va dire. Nous lisons, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Maintenant, ça a l'air très compliqué tout ça, le baptême du Saint-Esprit, mais essentiellement, ce que ça dit, c'est que lorsque tu deviens un chrétien, tu vas faire partie d'une grande famille. C'est ça que ça veut dire, dans le fond, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu va prendre un nouveau croyant, celui qui ouvre son cœur à Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alors, l'acte par lequel Dieu va prendre le nouveau croyant et va le placer dans le corps de Christ et en fait un membre de sa famille. Ce geste-là, cet acte par lequel Dieu va te placer dans le corps de Christ, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, d'accord? Où tu deviens un membre de la famille de Dieu et tu fais maintenant partie du corps de Christ. Certaines personnes pensent que le baptême du Saint-Esprit va arriver ultérieurement au salut. Absolument pas, parce que, vois-tu, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que le baptême du Saint-Esprit arrive au moment de ton salut, au moment de recevoir le Christ comme ton sauveur personnel. D'ailleurs, ce qu'on voit Paul dire à l'Église de Corinthe, il y avait toutes sortes de personnes à l'Église de Corinthe. Il y a des gens qui venaient de se convertir, il y a des vieux chrétiens qui étaient là, il y a des chrétiens qui avaient quelques années, il y avait des bons chrétiens, moins bons chrétiens. Certainement, quand tu lis la lettre aux Corinthiens, tu t'aperçois que c'était une église très faible. Beaucoup de choses à changer. C'était une église peut-être la plus difficile à laquelle Paul a jamais écrit. C'est une église qui avait beaucoup de problèmes. Néanmoins, l'apôtre Paul va dire à cette église où il y avait de nouveaux croyants, des gens qui avaient quelques années dans le Seigneur, des gens qui allaient bien, des gens qui allaient moins bien. À tout ce groupe, l'apôtre Paul va dire, nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit. D'accord? Alors, c'est une expérience qui se produit miraculeusement par Dieu et par son Esprit au moment même où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, ça arrive, le Saint-Esprit nous baptise. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes baptisés par son Esprit quand nous recevons Jésus-Christ lui-même. Alors, ça nous distingue de la religion. Ça, c'est quelque chose qui se passe vraiment miraculeusement et par l'intervention de Dieu. Et ça nous sépare, ça sépare de la religion. On dit tout le temps qu'on n'est pas dans une religion. Mais c'est vrai, on n'est pas dans une religion. Cette semaine, j'ai rencontré un Indien, je vous en ai déjà parlé. Son épouse est hindouiste et lui, un homme brillant, mais il cherche. Et cette semaine, on s'est rencontrés dans mon bureau et puis on avait à discuter certaines choses pour Beaufortus. Et après, on avait réglé nos affaires et tout ça, puis on a commencé à jaser. Puis là, et on avait comme fini de jaser sur la besogne de Beaufortus. Et là, il est là, puis il arrête, puis il me regarde, puis il dit absolument rien. Alors, moi, je le regarde. Tu sais, long silence. Puis Claude Lapointe, justement, au souper de Noël, tu lui as prêté justement le livre de Tony Anthony. Qui est le témoignage de cet homme qui s'est converti, qui est venu au Seigneur, un homme violent, hein, et qui est devenu un chrétien, un enfant de Dieu. Et tu as passé aussi un autre livre, et ils nous ont remis ça mercredi soir, sa femme, Mira. Et là, ils ont lu ça probablement dans le temps des fêtes, c'est ce que je me disais, puis tout ça. Je sentais qu'ils voulaient parler, parce que là, il y avait un long moment de silence. Et c'était un moment de silence où, tu peux tolérer une certaine longueur de silence. C'est correct, c'est pas trop pire. Mais là, ça s'en venait pas mal long. C'est comme, je sentais qu'il y avait quelque chose à dire. Moi, j'avais pas mal fini à régler ces choses-là. Je lui avais parlé déjà du Seigneur et tout ça. Je voulais pas, évidemment, l'embêter encore avec ma foi. Et là, il me regarde. Et là, je vous dis, ça a été pas mal long, là. Et puis, il me regardait dans les yeux, là. Il dit, Normand, puis là, on ne s'est pas parlé depuis les fêtes, là, sur ce sujet-là. Il dit, Normand, faut que Dieu existe. C'est un homme très brillant, là. Il dit, il faut que Dieu existe. Il n'est pas né de nouveau, il n'est pas un chrétien en passant, pour ceux qui n'ont pas entendu déjà son passé, c'est l'histoire. C'est pas un chrétien et il cherche. Et il me dit, Normand, je suis embêté. Je suis vraiment troublé. Sa femme est hindouiste. Il sait qui nous sommes, que nous sommes chrétiens. J'ai partagé l'Évangile et tout ça. Il dit, normalement, je sais que Dieu existe parce que ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de Dieu. La création est tellement magnifique. Il faut qu'il y ait un Dieu. Là, j'attendais. Et là, il dit, normalement, je ne sais pas quelle religion choisir. Sa femme est hindouiste. Il a lu plusieurs choses. Il a même fait des concours à l'université. Il enseigne à Concordia puis à McGill. Il a fait des concours. Il donne des prix aux étudiants qui donnent la meilleure réponse pour prouver que Dieu existe. Est-ce qu'il cherche, le gars? C'est incroyable, le gars. Il a même parti un site Internet, pour ceux qui sont nouveaux ici. J'en ai déjà parlé. Un site Internet où il parle de sa fondation, puis en même temps, il parle de Dieu, puis il cherche. Il va avoir des réponses. Et il ne sait pas quelle religion choisir. Et moi, je suis là. Il est là parce qu'il voit bien sa femme, elle est très gentille, Mira, elle est hindouiste et tout ça. Il dit, normalement, les religions ne peuvent pas tous avoir raison. C'est vrai. Non, tu sais, juste la logique, là, c'est un gars qui est très logique, il maîtrise un MBA et tout ça, enseigne à Concordia en ingénierie, les ingénieurs, c'est un gars logique. Il dit, normalement, ils ne peuvent pas tous avoir raison. Ah, ben là, je n'étais plus capable de m'en tenir. Là, je suis allé. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est ça. Mais j'ai dit, ce qui est magnifique, c'est que Jésus est le seul à être ressuscité. Il est revenu, plus de 500 personnes l'ont vu. Il est embêté. Il sait que les religions ne peuvent pas avoir toute raison. Ils ne peuvent pas avoir raison. D'ailleurs, j'ose dire que aucune religion n'a raison. Hein? Tu es d'accord avec ça, Yvon? C'est vrai. On n'est pas dans une religion. D'ailleurs, on a eu une classe, une super belle classe de maître son disciple à première heure. Eh, mon Dieu, je vous dis, il y a des gens dynamiques. Et c'était le fun. On posait des bonnes questions. On jasait ensemble et tout ça. On regardait justement la différence entre la religion. Et cette semaine, justement, on a écouté une conférence. Yannick m'a dit, écoute ça, une conférence de Tim Keller, puis ça, puis il répétait la même chose, de dire la différence entre l'Évangile et la religion. Il a résumé ça comme ça, et ceux qui avaient un arrière-plan religieux, vous comprenez très bien, vous savez, comment il y a une différence, là. Lui a résumé ça en disant ceci, il a dit, la religion, il dit, pense comme ça. Il dit, il y a trois genres de chemins, il dit. Il dit, premièrement, il y a le chemin de celui qui n'obéit pas au Seigneur, veut rien savoir, aucun intérêt. D'ailleurs, on en a parlé ce matin dans une classe, hein, ceux qui se disent athées, aucun intérêt, veut rien savoir, veut rien savoir. Mais il y a l'autre personne qui, et comme on les a vus avec, et ça a été le problème avec Jésus, à confronter les pharisiens, ces gens très religieux, qui pensent de dire, moi, j'obéis au Seigneur, et en obéissant au Seigneur, je vais être accepté par Dieu. J'espère être accepté par Dieu, donc j'obéis maintenant. Alors, on fait des œuvres pour gagner des faveurs auprès de Dieu, d'accord? Mais l'Évangile est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? C'est que j'ai été accepté par Christ, même dans mon péché. Même si j'étais loin de Dieu, j'ai été accepté par Christ. Et parce que je suis accepté, maintenant, je veux le servir et le suivre. Ça change complètement notre attitude. Et c'est ça qui nous distingue entre la religion et l'Évangile. Et c'est une ligne qui est vraiment claire. Et c'est ça que Jésus est venu instaurer. Certainement pas une nouvelle religion, hein. On le sait, dans le temps du Nouveau Testament, lorsque Jésus est apparu, il y avait des centaines de religions dans le monde grec. Et même les Juifs avaient leur propre religion. Jésus n'est pas venu instaurer une autre religion, il est venu briser tout ça. Et ce qu'il voulait, évidemment, ce qu'on a vu, c'est cette relation qu'il veut. Et l'Église est un corps, l'Église est un organisme vivant. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un institut, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une cathédrale. D'ailleurs, c'est ce que je disais à cet homme, cet Indien, cette semaine. Vous avez remarqué comment on n'a pas on n'a pas de statue ici. On n'a pas vraiment de gros décor. La semaine dernière aussi dans la classe, on disait ça. On se met pas à genoux devant des choses. Nous, c'est l'esprit. On adore Dieu en esprit. Et c'est un organisme vivant. Nous sommes le corps de Christ. Et ça doit tellement être clair. Et ça, c'est la base. Et l'apôtre Paul choisit cette image guidée par le Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui donne cette image sous la plume de Paul, que nous sommes un corps. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes baptisés, donc, de son esprit, et qu'on reçoit la vie de Christ, la vie éternelle. Paul ajoute que quelle que soit ton origine, ton passé, au verset 13, voici ce qu'il dit. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit canadien, soit américain, soit grec, soit juif, soit italien, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et il n'est pas en train de dire que tout le monde l'est. Il est en train de dire que dans l'Église de Corinthe, en parlant aux chrétiens, aux enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, donc, ont été baptisés dans un seul esprit. Et Jésus l'a tellement bien dit. C'est tellement simpliste, mais Jésus avait ce don de pouvoir simplifier les choses compliquées et les mettre très simples en disant ceci. Vous en moi, moi en vous. Et ça c'est tellement vrai, c'est ça. Lorsque le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Jésus-Christ, il nous le place donc dans le Seigneur, et on vit maintenant notre vie chrétienne par sa puissance. C'est lui qui fait cette œuvre-là en nous. Alors voyez-vous, l'Église n'est pas juste un groupe religieux qui se réunit pour avoir des activités religieuses. L'Église est un groupe de personnes qui partagent la même vie qui appartient au même Seigneur. Plusieurs membres, mais qui appartiennent au même Seigneur. Nous sommes remplis du même esprit et on fonctionne ensemble dans le monde avec la puissance de Dieu pour faire une différence ici et emmener l'Évangile et emmener le plus de gens à Jésus-Christ. Mais comment l'Église fonctionne-t-elle? Et c'est à ça que l'apôtre Paul va répondre. Et il répond en dénonçant deux attitudes que l'on peut avoir à l'égard de l'Église. La première, l'attitude dont il va parler et qu'il dénonce, c'est qu'il n'y a pas personne qui doit se sentir non important, en dehors de la gang. n'y a personne d'insignifiant dans le corps. Et le corps est tellement la belle image pour ça, il va s'en servir d'ailleurs pour aller plus loin, pour exposer ça. L'attitude où une personne peut se sentir un petit peu de côté, laissée pour compte, ou « Ah, mais moi, je ne suis pas utile dans l'Église. Ah, ils n'ont pas besoin vraiment de moi. » Dans plusieurs églises, d'ailleurs ici aussi, je suis certain qu'il y a des gens qui pensent exactement de cette façon-là. Vous vous dites « Moi, je ne peux pas contribuer car je n'ai pas les habilités pour le faire. Les autres ont tellement plus de talent que moi, moi, je ne serais jamais capable de faire ce qu'ils font. » Paul adresse ce sentiment de se sentir inutile au verset 15. Et voici ce qu'il dit du verset 15 au verset suivant. Il dit, « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et une autre version le traduit plus simplement, version en français courant, dit, « Si le pied disait, je ne suis pas une main, donc, je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant de faire partie du corps. » En autre mot, imagine-toi un matin là, que ton pied se tanne, puis il dit, « Moi, là, j'ai bien de valeur, moi, je vais arrêter de suivre ce corps-là parce que je me sens inutile. » Il me semble, je regarde la main, et la main est tellement plus agile, elle est flexible, elle fait toutes sortes de choses. Tu peux jouer à la guitare, je voyais hein, aujourd'hui, ce matin, tout ça. C'est difficile de jouer à la guitare avec tes pieds et tes orteils. On va... C'est faisable, mais c'est dur. C'est pas facile. Tu sais, la main est tellement plus agile, plus facile. Alors, imagine-toi si un matin, le pied disait, mais ça n'a pas de bon sens, je ne sers vraiment pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est pas comme la main. La main peut faire tellement de belles choses. Hein? Tu peux dessiner, tu peux serrer la main, tu peux toucher, tu peux encourager avec tu sais, une belle accolade. Tu peux faire tellement de choses avec la main, tu peux écrire. Tellement de choses. Pour certains, ils peuvent même parler avec les mains, hein, ceux qui ont, je sais pas si vous êtes comme les Italiens, beaucoup de gestes. Le pied, tu sais, le pied. Mais même si tout d'un coup, il y avait une crise d'identité, ton pied fait encore partie quand même du corps. C'est vrai? Alors, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est la même chose pour les croyants. Même si tu te sens peut-être insignifiant, peut-être que tu te sens pas utile dans l'Église et peut-être que tu te demandes, tu te dis, oh, franchement, ils ont vraiment pas besoin de moi. Il y en a assez. Il y a assez de monde qui travaille dans cette Église-là. Ils ont vraiment pas besoin de moi. Que tu dis ça ou non, que même que tu aies comme une sorte de crise d'identité, tu fais quand même partie du corps. Tu fais partie du corps et si tu es un enfant de Dieu, Dieu a fait de toi un membre à part entière et il a besoin de toi. Réalises-tu ça? Sais-tu, c'est où le problème? Le problème, c'est que certaines personnes pensent que l'Église, dans le fond, c'est ce qui se passe ici sur le stage le dimanche matin. Et là, vous êtes dans l'assemblée, vous êtes là, vous regardez en avant, vous dites, mon ami, moi, je ne suis pas capable de chanter comme ça. Aïe, 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 aller comme dans l'équipe des choristes, puis aller jouer du drum, jouer la guitare, chanter, puis tout ça, puis diriger la louange. Hey, ces gens-là sont tellement doués, ils ont tellement de talent. Moi, je serais jamais capable de faire ça. Donc, je suis inutile, ils n'ont pas besoin de moi. Parce que beaucoup pensent que la vie de l'Église se passe ici, là, dans les 15 ou 16 pieds, à 10 pieds, c'est ça la vie de l'Église. Bien, laissez-moi vous dire que si c'était... que ça, et on l'apprécie beaucoup, l'équipe de louange, on remercie Dieu pour ça, élever nos cœurs en présence de Dieu, on veut adorer le Seigneur le dimanche matin, et gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que ça, l'Église. Savez-vous que le gros du travail, beaucoup de travail se fait en arrière des murs, à l'extérieur des murs aussi, dehors. Lorsque tu es en train d'inviter quelqu'un à prendre un café à ton travail, à Pratt & Whitney, puis tu dis « j'ai quelque chose à t'annoncer, à te parler », regarde ce que je lisais cette semaine dans la Bible, je vais te partager ça, puis tu commences à parler de ta foi à quelqu'un là-bas à Pratt & Whitney. Mes chers amis, tu fais partie du corps, et c'est Jésus-Christ qui est en train de faire son œuvre à travers toi pour toucher la vie de cet individu-là. Ça, c'est l'Église. Il y a un paquet de choses qui se fait à l'extérieur des murs, et ça fait partie de la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est pas juste le dimanche matin. Et c'est là notre erreur. Donc, mes chers amis, il n'y a pas de raison du tout de te sentir inutile. Il y a une place pour toi importante et il y a un travail que Dieu a préparé d'avance que seul toi peux faire avec l'énergie divine que Dieu t'a donnée pour l'accomplir. Et parce que c'est ça, les dons de l'Esprit. Nous sommes en train de regarder trois chapitres, chapitre 12, 13, 14. Ça s'inscrit, le chapitre, nous, on s'est arrêté ce matin juste à une dimension de tout cet enseignement-là. Mais ça s'inscrit dans un enseignement sur les dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit, c'est quoi un don de l'Esprit? À chaque croyant, Dieu a donné un don de l'Esprit. On regardait ça ce matin. Dans la première heure, dans la classe du maître et son disciple. Chaque croyant a reçu un don de l'Esprit. Maintenant, tu ne sais peut-être pas c'est quoi. C'est seulement en servant le Seigneur à quelque part. Cherche pas, sois pas chez vous, en train de vous te demander jusqu'à temps que je trouve c'est quoi mon don, je ferai rien. Parce que je veux tellement pas me tromper, je veux absolument faire ce pour quoi Dieu m'a appelé à faire, à accomplir. Non, c'est pas le même que ça marche le contraire. Sers le Seigneur dans n'importe quel ministère dans l'Église. Quel que soit le ministère dans l'Église, à quelque part, sers. Et tu vas voir à travers ce service, des gens vont s'arrêter, vont te regarder, « Oh mon Dieu, cette personne-là est vraiment douée dans tel domaine. » C'est comme ça qu'on trouve notre don spirituel, en servant le Seigneur. Tu veux trouver ton don spirituel? Pas compliqué. Viens nous voir, on va se trouver, on va trouver de l'ouvrage pour t'aider, on va trouver de l'ouvrage à servir le Seigneur pour que tu puisses trouver ton don. Tu vas le trouver, c'est certain. Sers le Seigneur. Tu ne le trouveras pas en restant chez vous, en ne servant pas le Seigneur. Je le dis, c'est en servant le Seigneur. Et imaginez comment le don de l'Esprit, qui est une énergie divine, une capacité divine pour accomplir une œuvre que Dieu a préparée d'avance afin que tu l'accomplisses. Imagine-toi donc si tu as reçu cette énergie divine-là et pas moi, et pas l'autre. Et l'autre se dit, bien, X n'est pas là, ne sert pas le Seigneur dans l'Église. Elle est chez elle, puis elle attend que Dieu lui montre c'est quoi son don. Bien, le travail doit se faire, mais le travail sera hypothéqué parce que elle serait beaucoup mieux faite avec l'énergie divine si c'était la personne avec le don qui l'accomplissait, pas vrai? Alors oui, Dieu bénit tous ceux que tu sers le Seigneur, et même si c'est pas tout à fait 100% ton don, Dieu bénit pareil. Mais combien c'est efficace, utile, lorsque ce sont tu te sers du don de l'Esprit que Dieu t'a donné, tu sers le Seigneur dans cette capacité-là. C'est une énergie divine, une capacité divine de faire des choses. Et c'est merveilleux, c'est là que Dieu bénit. Alors c'est ça le raisonnement du corps. Personne ne peut se sentir inutile au sein du corps. Tous les membres sont importants. Il y avait un prédicateur qui prêchait, puis il prêchait justement sur... la dimension du corps et l'Église et tout ça. Puis il y a un médecin dans l'assemblée qui est allé le voir après son médecin, après son sermon, puis il est allé le voir, il dit, « Tu as tout à fait raison, sais-tu, chaque membre de ton corps est utile, même quand tu prêches? » Ah, OK. Il dit, « Réalises-tu que lorsque tu te prépares à aller prêcher, là, tu vas ouvrir ta bouche, tu te prépares, là, tu t'en vas à prêcher. Toi, tu penses que c'est juste ta bouche que Dieu se sert pour parler. Mais sais-tu qu'un des membres très important, capital, quand tu vas prêcher, sais-tu c'est quoi? Hein? La grosse orteille. Et ça, c'est un médecin qui a dit ça. La grosse orteille se prépare, elle se prépare à recevoir la tension, à te tenir équilibré. Et ça travaille très fort quand on prêche. Moi, j'ai des muscles dans la grosse orteille parce que je prêche depuis 30 ans. Tous les membres sont utiles. Tous les membres. Il n'y a pas personne ici qui doit se sentir inutile et insignifiant. 1 Corinthiens 12, verset 18, l'apôtre Paul va continuer, renchérir, il va dire ceci, « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. De la même manière que ce serait ridicule d'avoir un corps juste avec des oreilles, et c'est ça que Paul est en train de dire, ce serait ridicule, ça fonctionnerait très pas, il entendrait très bien, mais ce serait pas très utile dans la vie. Hein? C'est ça le raisonnement. Alors, ce serait ridicule d'avoir juste des prédicateurs dans l'Église. Tu as juste des prédicateurs. ou tu as juste, je sais pas moi, des dons d'exhortation. Alors, on s'exhorte tout le temps, puis c'est juste ça qu'on fait. Non, une église, c'est pas ça. Il y a plusieurs membres. Le problème, dans le fond, où il est où, c'est de retrouver la passion de Christ. Si tu te sens comme ça, si tu fais partie de ce groupe de personnes qui sont un petit peu laissées pour compte, là, puis tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas ma place dans cette église-là. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux et retrouve la compassion de Jésus-Christ qui n'attendait pas lui qu'on lui demande. Jésus sortait dehors et allait voir dans les rues ceux qui étaient blessés. Il allait voir ceux qui avaient besoin de réconfort et de consolation puis d'encouragement. Il allait voir la veuve qui avait perdu son fils unique pour aller l'encourager. C'est ça le problème. À la base, c'est juste un problème de passion et de compassion. On a besoin tous ensemble de retrouver cette passion et cette compassion que Jésus avait. Il est là. C'est moins le devoir, plus la compassion et la passion de Christ. Et Dieu a tellement de tâches, tellement d'ouvrages, tellement, il y a une grande mission à accomplir. Il y a l'ouvrage pour tout le monde. Et il faut le faire avec joie. C'est incroyable, dans notre série, dans le livre des Nombres, ça m'a tellement frappé. J'en parlais justement à Noël, à Joël, quand ils sont venus chez nous quelques jours. J'ai dit, c'est fascinant de voir dans le livre des Nombres, chapitre 4, l'apôtre Paul, excusez, j'étais un petit peu avant mon temps, là. Chapitre 4 puis chapitre 5 du livre des Nombres. Dieu est en train, dit à Moïse d'aller voir le peuple d'Israël, et il est en train d'organiser son peuple. Et là, il est rendu aux Lévites. Ça, c'était les prêtres. Là, ils sont dans le désert, en plein milieu du désert. Il y a 2 à 3 à 4 millions de personnes. Dieu vient les organiser au chapitre 2. Il a fait le dénombrement. Il y a 600 000 hommes de 20 ans et plus. Alors, ils sont tous là dans le désert. Puis là, il y a le tabernacle, la tente de la rencontre, où Dieu se trouve, l'arche se trouve à l'intérieur, et Dieu est dans son peuple. Et ça, c'est comme une armée, là. Et Dieu est au centre. Et là, Dieu va assigner les tâches à la famille de Lévi, 3 familles, 3 enfants, là, toutes 3 branches des Lévites. Et il assigne des tâches quand c'est le temps de déménager et bouger. Et à un des enfants, à une des lignées, une des descendances, la tâche qu'il assigne, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une image du tabernacle, il y a le tabernacle, et il y a cette tente rencontre où Dieu rencontrait Moïse, et autour, il y avait comme une clôture. Alors là, il y avait des pieux qui tenaient ces clôtures, ces toiles, un pieu de 7 pieds et demi environ, qui séparait, délimitait le peuple pour ne pas s'approcher trop proche de Dieu. Alors imagine-toi donc, il y a une des familles que Dieu a dit ceci. Il dit, OK, ce que tu vas faire, ta mission dans la vie, dans ta vie, entre 30 ans et 50 ans, imagine-toi, les années les plus productives de ta vie, là, entre 30 et 50, ce que tu vas faire, ce groupe-là va déménager les pieux. Alors, imagine-toi donc, je dis ça à Joël, à Noël, imagine-toi donc, la mission de ta vie, c'est que tu vas passer ta vie entière presque, les années les plus productives, si on peut dire, plus ou moins, dire comme ça, tu passes ta vie à traîner un pieu de 7 pieds et demi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je traîne un pieu. T'es allé à l'université? Ouais, mais hey, Dieu m'a confié cette tâche-là, ma mission, ma tâche, c'est de traîner un pieu. Et le gars passait sa vie, bonne partie de sa vie en tout cas, à bouger un pieu. Et quand on regardait ça dimanche soir, je pense que c'est Michael qui a soulevé l'observation. Ouais, mais c'est pas n'importe quel pieu. C'est vrai? C'est pour Dieu. C'est pour le tabernacle. C'est pour tout le ministère. Voilà comment on doit voir ça. Quand tu prends la mop dans l'église, tu es en train de laver le plancher, sache une chose, ce n'est pas n'importe quel pieu. Ce n'est pas n'importe quel mop. Tu es en train de mopper pour Dieu. Vois-tu? Amen? Amen? Imagine-toi, ce gars-là avait besoin d'être fidèle à bouger un pieu toute sa vie. Sois fidèle. Ah, je vais être fidèle. J'ai tout développé une technique pour le transporter, tout ça. J'ai inventé, ça n'existait pas avant. J'ai tout réfléchi comment le transporter, puis tout ça. Puis je peux peut-être même en transporter deux. Et pas mal pesant, mais j'ai réussi là. Hey, gloire à Dieu, fais-le avec passion, tu le fais pour Dieu, c'est super, et Dieu va te récompenser pour ta fidélité. Alors, quelle que soit la tâche et la mission, le service que tu vas faire au sein de cette église, vas-y, prends le pieu, prends-les, puis fais la tâche, fais l'œuvre parce que tu le fais pour Dieu. Amen. Il y a une deuxième attitude aussi, c'est la personne qui est indépendante. La personne qui est indépendante, lui, c'est tout à fait l'opposé. C'est tout à fait le contraire. Et Paul va s'opposer donc à l'attitude de l'autre. Que c'est lui qui se retire. Il est indifférent. Il ne participe pas. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire au pied, « Pas besoin de vous. » En d'autres mots, ça, c'est la personne qui dit, « Moi, j'ai pas besoin de l'Église. » Hein? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de servir dans l'Église, j'ai pas besoin d'Église, moi. Je suis anti-Église. Ah, moi, Dieu, je l'aime. Ah, mais l'Église, bon. Ben, l'apôtre Paul, justement, va dénoncer l'attitude d'indépendance, parce que oui, tu fais partie du corps de Christ. T'as beau chicaner après la main tant que tu veux, elle fait partie du corps, puis t'en as besoin. Moi, je suis toujours attristé, préoccupé, mal à l'aise quand on critique l'Église de Jésus-Christ. Parce que moi, dans la Bible, c'est le corps de Christ. Et ailleurs, on va même comparer l'Église à l'épouse de Christ. Tu veux-tu vraiment critiquer mon épouse? Pense pas, hein? Tu veux pas venir me voir et critiquer mon épouse. Ça, c'est un petit peu maladroit. Ça se fait pas. Alors, tu veux-tu vraiment critiquer la fiancée de Christ? Celle qui l'a choisie, celle qui l'aime, celle qui a tout fait, qui s'est donnée pour elle. Tu veux-tu vraiment te retrouver dans cette situation-là? Vois-tu? Alors, indépendamment des forces et des faiblesses d'une église, et certainement l'église de Corinthe était peut-être la pire église qu'on puisse imaginer. Alors, mon Dieu, c'était vraiment épouvantable ce qui se passait dans cette église-là, toutes sortes de choses. Malgré ça, l'apôtre Paul dit, on est un corps, on est ensemble, on est liés ensemble, on est frères et sœurs de sang, et ce corps-là, c'est le corps de Christ. Donc, il n'y a pas de place pour l'indépendance, parce que lorsque tu es indépendant, tu ne mets pas ton don au service des autres, comme dit 1 Pierre 4:10, tu es en train d'hypothéquer l'Église. L'Église pourrait faire tellement de belles choses pour Christ, tellement de belles choses. Il y a déjà tellement de belles choses qui se font. Mais on pourrait aller tellement plus loin si tous et chacun s'investissait, mettait au service des autres le don qu'il a reçu. Ça serait magnifique. Dieu nous surprendrait. Dieu ferait des choses glorieuses parce que Jésus est dans le monde à travers. Il veut opérer, travailler. Il veut toucher le monde et avoir un impact dans ce monde à travers l'Église qui est son corps, le corps de Christ. C'est pour ça que Paul dit qu'il n'y ait pas de division dans le corps, verset 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Qu'ensemble, on puisse s'encourager les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Il n'y a pas de place pour l'indépendance. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent de son honneur. Alors que je me réjouisse du succès d'un autre, que j'ai de la peine quand un autre a une peine. C'est ça l'Église, le corps de Christ, toucher les uns les autres. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Et nous voulons te remercier pour l'Église, parce que c'est par l'Église que nous sommes capables d'être édifiés, enseignés, mieux te connaître, mieux t'adorer. Tu as mis des gens ici avec des dons, des capacités surnaturelles pour nous diriger dans la présence même de Dieu. Et Seigneur, nous jouissons de tous ces dons, ces ces bénédictions que tu as données à l'Église. Nous profitons de ces dons. Nous profitons du cœur de service de certains. Certains qui ont eu le don de service, d'autres le don de foi, le don d'encouragement, le don d'enseigner. Merci Seigneur pour ceux qui ont le don d'enseigner. Merci pour ceux qui ont une parole d'exhortation et d'encouragement, que lorsque nous sommes découragés, nous pouvons juste nous asseoir et écouter ses frères ou ses sœurs. Et c'est comme si la foi en nous revient et nous repartons encore plus déterminés à te servir et t'adorer. Merci Seigneur pour l'exercice des dons spirituels au sein de l'Église. Oh Seigneur, nous voulons te prier pour que chacun d'entre nous puissions relever ce défi, cet appel de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, que nous sommes plusieurs membres, tous attachés à un seul corps. Et Christ qui est la tête, c'est Christ qui est le premier. Et tu veux diriger ton corps dans ce monde pour toucher ceux qui sont dans le besoin. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à nous investir, à nous impliquer dans le service au nom de Jésus. Amen.